présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Quand la politique instrumentalise l'histoire, en Allemagne, l'extrême droite conteste le bilan des bombardements de Dresde il y a tout juste 75 ans. L'AFD avance le chiffre de 100 000 morts sous les bombes alliées. Nous serons en direct de Berlin avec Ludovic Piétenu. La Turquie envoie des renforts militaires en Syrie et promet de frapper les djihadistes d'Idleb. Le président Erdogan semble vouloir calmer le jeu avec la Russie. Anne Andlauer nous appellera d'Istanbul. Le dossier de ce journal sera consacré à Kirkenes, petite ville de 10 000 habitants dans le grand nord norvégien. Le port de Kirkenes pourrait profiter du réchauffement climatique avec l'ouverture d'une nouvelle voie maritime dans l'Arctique. Le reportage de Frédéric Faux. En France, les partenaires sociaux restent divisés sur la réforme des retraites. La réunion d'aujourd'hui à Matignon a révélé d'importants désaccords sur la question de la pénibilité. Nous ferons le point avec Catherine Pétillon. L'Allemagne commémore aujourd'hui le 75e anniversaire des bombardements de Dresde. Du 13 au 15 février 1945, 3900 tonnes de bombes alliées s'abattaient sur la capitale de la Saxe. Les Américains et les Britanniques soupçonnent alors les nazis de préparer un déplacement de troupes vers le front de l'Est proche de Dresde. La ville sera quasiment rasée et les bombardements feront au moins 25 000 morts selon les derniers travaux des historiens. Un bilan contesté par l'AFD, le principal parti de l'extrême droite allemande, affirme qu'il y a eu 100 000 morts à Dresde. On retrouve en direct de Berlin Ludovic Piétenu. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et tous.
Ludovic, les autres partis accusent l'Alternative für Deutschland d'instrumentaliser l'histoire.
Oui, c'est la politique de la repentance que critiquent régulièrement les leaders d'extrême droite, qu'ils appellent culture de la repentance. Ils en ont assez de ces commémorations où l'Allemagne doit sans cesse se justifier de ses crimes, et principalement des crimes nazis. Alors ils tombent régulièrement dans la provocation, comme ici pour ces commémorations des bombardements de Dresde. Le nouveau chef de l'AFD, Tino Chrupalla, cite sa grand-mère et son père et d'autres témoins oculaires de 1945 qui racontent les montagnes de cadavres dans les rues, suffisant pour lui, pour quadrupler le chiffre sur lequel tout le monde s'accorde. Le président allemand Steinmeier a vivement condamné cela tout à l'heure lors de son discours.
Trop souvent et trop longtemps, l'histoire des frappes aériennes sur Dresde a été confisquée idéologiquement et politiquement, d'abord par les nazis, puis par le régime socialiste de l'ex-RDA. Encore aujourd'hui, en cette année de commémoration, des forces politiques manipulent l'histoire et la réinterprète comme une arme dont ils abusent. C'est pourquoi je veux dire clairement aujourd'hui que face à quiconque qui falsifie des faits historiques, nous devons, nous, démocrates, leur tenir tête. Nous devons être en désaccord total, mesdames et messieurs.
Le président allemand Steinmeier, très applaudi à Dresde cet après-midi. Steinmeier, plus souvent encore que la chancelière Angela Merkel, en première ligne lors de discours commémoratifs de ce type pour affronter l'AFD sur le terrain historique, bien souvent dans l'est du pays, car ce sont dans ces Länder que l'on retrouve aujourd'hui les leaders les plus influents du parti alternatif pour l'Allemagne, en Saxe, dans le Brandebourg. Ils appartiennent tous à l'aile dure de l'AFD, un courant nommé Der Flügel. Ce sont les mêmes qui ont provoqué le chaos politique il y a une semaine en Thuringe, avec depuis des conséquences en chaîne sur la vie politique allemande.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci. 13 jours après le Brexit, le Royaume-Uni traverse ses premières turbulences gouvernementales. Le ministre des Finances Sajid Javid a démissionné à la surprise générale. Sajid Javid était un membre influent du nouveau gouvernement de Boris Johnson, le premier ministre britannique qui avait promis ce remaniement après son triomphe électoral en décembre. Elodie Goulès que nous appelle de Londres.
Certains l'avaient déjà surnommé le massacre de la Saint-Valentin. Finalement, le remaniement opéré par Boris Johnson aujourd'hui n'a pas été si spectaculaire. Même si le doute a plané jusqu'au dernier moment pour certains, la plupart des postes clés sont restés aux mains de leurs ministres actuels. Dominic Raab reste aux affaires étrangères, c'est aussi le cas de Priti Patel à l'intérieur, Matt Hancock pour le ministère de la Santé ou encore Ben Wallace à la Défense. Mais au milieu d'un remaniement plutôt léger, la grande surprise est venue du côté de Sajid Javid, ministre de l'Intérieur sous Theresa May, puis titulaire du très convoité convoité poste de chancelier de l'échiquier. Ce dernier devait rester en poste, mais a décidé de démissionner. La cause, la mainmise de Downing Street sur son ministère. Boris Johnson aurait demandé à Javid de se séparer de tous ses conseillers spéciaux pour être remplacé par d'autres, soigneusement choisis par le Premier ministre et son redoutable conseiller Dominic Cummings. C'est justement cette mainmise de Downing Street sur les autres ministères qui ressort de ce remaniement. Sajid Javid a été remplacé par son ancien numéro 2, Rishi Sunak, qui n'est entré au Parlement qu'en 2015. Une ascension fulgurante qui devrait le forcer à rester loyal à Boris Johnson. L'avocat général Jeffrey Cox, lui, a été remplacé par Suella Braverman, une députée conservatrice et favorable à un Brexit dur. Boris Johnson, qui compte bien rester au pouvoir pour plus d'un mandat, a donc mis tous ses pions en place aujourd'hui et les a choisis avec grand soin, sans doute pour mieux atteindre ses objectifs.
Élodie Goulesque, correspondante au Royaume-Uni. La Turquie a-t-elle décidé de calmer le jeu avec la Russie ? Ankara annonce aujourd'hui l'envoi de nouvelles troupes dans la province d'Idleb en Syrie. Et pour la première fois, les Turcs menacent de frapper les djihadistes qui tiennent la région s'ils ne respectent pas un cessez-le-feu. Rappelons qu'hier, le président turc Erdogan avait promis de frapper partout les forces du régime syrien en cas de nouvelle attaque contre ses soldats présents à Idleb. La Russie, qui soutient le régime Assad, avait répondu en accusant la Turquie de ne rien faire contre, je cite, les terroristes d'Idleb. Anne Andloer nous appelle d'Istanbul.
Le déploiement militaire turc à Idleb va donc se poursuivre. Il a enfin un objectif politique clairement énoncé, imposer le cessez-le-feu par la force s'il le faut. Mais il ne s'agit plus seulement, comme Ankara le répète depuis des jours, d'empêcher les forces du régime de Bachar el-Assad de progresser dans cette province ou de les repousser au-delà des frontières de l'accord de Sochi conclu avec Moscou en 2018. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a été plus loin. La force sera utilisée contre ceux qui ne respectent pas le cessez-le-feu, radicaux inclus. Radicaux, un euphémisme pour désigner les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham, émanation d'Al-Qaïda qui ont d'ailleurs toujours été exclus des accords de cessez-le-feu. Or, en vertu du compromis de Sochi, la Turquie s'était engagée à évacuer les djihadistes d'Idleb. Jusqu'ici, elle n'avait jamais pu ou voulu le faire. Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déjà laissé entendre que son pays passerait à l'action contre Hayat Tahrir al-Sham. Désormais, nous ne fermerons plus les yeux sur le fanatisme, la trahison, les provocations de francs-tireurs au sein des groupes d'opposition qui offrent au régime un prétexte à ces attaques, avait-il annoncé. Ce changement de discours est certainement une contrepartie que la Turquie offre à la Russie pour la convaincre de trouver un accord durable à Idleb. Dans un communiqué mercredi, le ministère russe de la Défense avait imputé à la Turquie la responsabilité de la crise d'Idleb, accusant Ankara, je cite, de ne pas tenir ses obligations de séparer les combattants de l'opposition modérée de ceux des groupes djihadistes.
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie, a noté qu'à Damas, le Parlement syrien a pris aujourd'hui une décision qui va encore envenimer les relations avec les Turcs. La Syrie reconnaît le génocide arménien perpétré par l'Empire ottoman au début du XXe siècle. 1,5 million d'Arméniens avaient été massacrés dans l'Empire entre 1915 et 1917. La Turquie, héritière de l'État ottoman, reconnaît des massacres mais conteste le terme de génocide. Et l'on reparle de la Turquie après ce journal dans le temps du débat. La Turquie mène-t-elle une guerre contre la liberté de conscience ? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités. Le bilan du coronavirus chinois a brutalement explosé aujourd'hui. Au moins 1300 morts et plus de 60 000 personnes contaminées en Chine. Mais à Genève, l'Organisation mondiale de la santé refuse de céder à la panique. Selon l'OMS, cette augmentation reflète un changement des méthodes de dépistage et de calcul. Mais il n'y aurait pas d'aggravation de l'épidémie. En tout cas, à Bruxelles, les ministres de la Santé de l'Union européenne étaient réunis aujourd'hui pour améliorer leur coordination face au coronavirus. Les précisions d'Angélique Bouin.
La décision italienne de fermer ses lignes aériennes avec la Chine était l'un des sujets délicats. Dans un espace où la libre circulation des personnes est la règle, cela n'a pas de sens. Il suffit en effet d'atterrir dans un pays voisin et de poursuivre sa route en train. Cela peut même désorganiser les flux de passagers, explique une source européenne, alors que l'on met en place un cordon sanitaire qui s'appuie justement sur les flux connus. Les 27 se sont donc mis d'accord pour améliorer leur coordination à ce niveau, mais aussi sur la détection des cas suspects et les bonnes procédures à suivre. Les 27 ont aussi décidé de se prémunir contre une éventuelle pénurie de masques ou de gants. 50% de ces équipements sont produits en Chine. Pour l'éviter et mobiliser des entreprises européennes, on s'apprête donc à grouper les achats entre pays membres. Cette réunion a enfin permis de faire le point sur une autre pénurie qui inquiète certains pays, celle qui pourrait toucher les médicaments. La Chine produit beaucoup de substances nécessaires à leur fabrication. Pas d'inquiétude de ce côté-là à ce stade, indique-t-on ici à Bruxelles, en ajoutant que si l'épidémie s'aggrave, alors d'autres actions seront entreprises.
Angélique Bouin, depuis depuis le bureau de Radio France à Bruxelles. Le dossier de ce journal nous emmène ce soir en Norvège, tout au nord du pays. Kirkenes, c'est un peu une ville du bout du monde, près de la frontière russe. Mais le réchauffement climatique et la fonte des glaces dans l'Arctique pourraient bientôt changer son destin. Une nouvelle route maritime est en train de s'ouvrir entre l'Asie et l'Europe et Kirkenes pourrait devenir le premier port européen pour les porte-conteneurs venant de Chine ou du Japon. Une perspective qui suscite les convoitises des politiques comme des entrepreneurs du monde entier. Le reportage à Kirkenes de notre envoyé spécial Frédéric Faux.
Je suis le président directeur général de la compagnie maritime Tchoudi.
Je m'appelle Nikolai Konigin et je suis consul de Russie.
Aili Keskitalov, je suis la présidente du Parlement Sami.
Cette semaine, les acteurs les plus importants de la zone arctique, côté russe comme côté européen, se sont donné rendez-vous à Kirkenes pour un sommet annuel dédié à l'avenir de la région. La petite commune de 10 000 habitants à la frontière russe semble bien modeste pour accueillir une telle réunion. Mais pour son maire, Rune Raphaelsen, bientôt cela pourrait changer.
Ce que je vois, c'est un port gigantesque et des trains qui relieraient Kirkenes à Rovaniemi en Finlande. Puis un tunnel entre Helsinki et Tallinn qui permettrait de desservir l'Europe. On estime que le port pourrait accueillir 1 million de conteneurs par an, ce qui signifie le départ chaque jour depuis Kirkenes de 5 trains d'une longueur de 700 mètres. Dans 20 ans, Kirkenes va devenir un nouveau Singapour.
Ce qui rend le maire si sûr de lui, c'est d'abord les eaux noires de la mer de Barents qui s'étendent devant nous. Noires et pas blanches, malgré la saison. Le port de Kirkenes, l'hiver, est de moins en moins pris par les glaces. Même constat le long de l'immense côte russe. Les semaines d'été, pendant lesquelles on peut y naviguer librement, sont de plus en plus nombreuses. Et une flotte de brise-glace est là le reste du temps pour libérer le passage, au moins dans la partie ouest. Pour Kjell Storvik, expert de la logistique arctique, c'est la route de l'avenir.
Comme vous le savez, le changement climatique nous ouvre cette nouvelle route. C'est un itinéraire de transport alternatif entre l'Europe et l'Asie. Ça raccourcit le temps de navigation jusqu'à 40%. Vous économisez de l'argent, vous émettez moins de CO2. Le trafic augmente à cause des exportations de gaz et de pétrole depuis la région arctique russe de Yamal. La prochaine étape pour ouvrir cette route toute l'année, ce serait d'avoir plus de brise-glace.
La glace est de moins en moins présente, certes, mais naviguer le long des 6500 km de côte sibérienne reste et restera encore longtemps un challenge. Mong San Luin, capitaine du port de Kirkenes, nous montre ses cartes de navigation.
Cette ligne, là, vous voyez, c'est la limite des glaces. Elle peut monter et descendre parfois de 200 km, mais vous ne pouvez jamais savoir. En fait, vous ne pouvez pas prévoir la présence de la glace, même si la tendance générale est à la baisse. C'est pour ça que le trafic sur la route maritime du Nord est en général pendant l'été, car l'hiver, ça reste une épreuve. Souvent, un brise-glace n'est pas suffisant. La vitesse est limitée à un maximum de 6 à 7 nœuds, car s'il y a beaucoup de morceaux de glace dans la mer, ça pose bien sûr un problème de navigation.
Pour l'instant, l'essentiel du trafic est assuré par le pétrole et le gaz russe. Et le nombre de cargos qui se lancent dans le voyage entre l'Europe et l'Asie par la route maritime du Nord reste encore très limité. L'année dernière, il n'était que 37.
Voilà ce reportage de Frédéric Faux à Kirkenes en Norvège à retrouver sur franceculture.fr. En France, la concertation sur la réforme des retraites a repris aujourd'hui à Matignon, alors que le texte arrive lundi prochain en séance plénière à l'Assemblée. Les partenaires sociaux ont évoqué notamment la question de la pénibilité. C'est l'un des points durs de la négociation. Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
Édouard Philippe parle de nouvelles avancées lors de cette réunion, mais sur la pénibilité, le Premier ministre reconnaît qu'il n'y a pas de consensus.
Oui, clairement, le sujet est loin d'être réglé, malgré de petites avancées. D'abord sur le volet prévention, pour réduire la pénibilité de certains métiers, le gouvernement va demander aux branches professionnelles de travailler à des actions concrètes qui seraient ensuite financées à hauteur de 100 millions d'euros par an via les excédents de la branche des accidents du travail. Ensuite, pour permettre aux personnes exerçant des métiers pénibles d'en sortir plus facilement, l'exécutif veut ajouter au projet de loi la création d'un congé de reconversion et faciliter l'accès à la formation. Mais le point problématique, c'est la réparation, la pénibilité. Autrement dit, quels métiers seront considérés comme pénibles et permettront de partir plus tôt à la retraite. Actuellement, le compte pénibilité reconnaît 6 facteurs, mais il laisse de côté de nombreuses situations. François Méril de la CFE-CGC.
Malgré beaucoup de débats sur les questions, finalement, ça n'avance pas beaucoup. Parce que tout le monde se renvoie la balle pour savoir qui va payer les réparations qui ont été induites par les travaux pénibles. Et puis, il y a un sujet qui n'est toujours pas pris en compte, c'est la question des risques psychosociaux.
Or, la CFDT a fait de la pénibilité sa revendication majeure, a rappelé Laurent Berger.
On sent un gros blocage des organisations patronales, avec sans doute des nuances entre elles. Il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités pour faire des choix. Il ne peut pas y avoir de système universel des retraites juste s'il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité.
Si les représentants des PME et des indépendants se disent prêts à avancer sur le sujet, le MEDEF, lui, reste très opposé à de nouvelles dépenses, a redit Patrick Martin.
Nous demandons très fortement, pour ne pas dire que nous exigeons, un chiffrage précis des mesures sur lesquelles nous pourrions nous accorder, et a fortiori des mesures qui sont demandées par les organisations syndicales sur d'autres points, qui nous poseraient réellement problème si l'équilibre général était remis en cause.
Ce matin, le Premier ministre n'a pas tranché. Il a renvoyé le sujet à la conférence de financement qui se tiendra la semaine prochaine.
Catherine Pétillon, merci. J'ajoute que dans votre Bulle Écho samedi à 12h40, vous reviendrez sur cet enjeu de la pénibilité dans la réforme des retraites. Le gouvernement se félicite de la baisse du chômage au quatrième trimestre 2019. 8,1% de la population active sans emploi, le plus bas niveau depuis la fin 2008. Il s'agit du taux de chômage mesuré selon les normes du Bureau international du travail. Un mode de calcul qui ne fait pas l'unanimité chez les économistes. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé aujourd'hui les modalités du grand oral, l'une des principales innovations de la réforme du bac. L'épreuve interviendra à la fin de la terminale. Elle comptera pour 10% de la note finale pour la voie générale et 14% pour la voie technologique. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Quelles sont les modalités pratiques de ce grand oral ?
Alors concrètement, le lycéen devra choisir et effectuer debout et sans note, devant jury de professeurs, une prestation de 5 minutes sur une question liée aux deux spécialités qu'il aura choisies en terminale. Pour cela, il aura au préalable 20 minutes pour se préparer. Dans un second temps, pendant 10 minutes cette fois, élèves et professeurs échangeront sur le sujet. Enfin, le candidat expliquera durant 5 minutes en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite et d'études dans le supérieur, voire son futur projet professionnel. Une sorte d'entretien d'embauche inapproprié, estime une partie des syndicats, tout comme le fait que ce grand oral, censé apprendre à développer son argumentation, risque de créer des inégalités en fonction du milieu social des élèves, estime Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES.
Là, on est devant un public qui est très hétérogène, très divers, avec des jeunes de milieux populaires, où il est moins fréquent qu'on ait l'habitude justement de ce type d'exercice. Qu'est-ce qu'on va évaluer véritablement ? Si on regarde la grille d'évaluation, on a l'impression de choses assez redondantes. C'est vraiment, tout est fondé sur cette capacité à s'exprimer avec aisance. Et on a l'impression qu'on évalue plus la forme que le fond.
De son côté, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, assume sa réforme. Il indique que le grand oral est au contraire un véritable levier pédagogique et d'égalité sociale qui doit permettre aux élèves d'apprendre à parler en public. Le grand oral entrera en vigueur au printemps 2021.
Hakim Kasmi, merci. Le gouvernement va expérimenter la distribution gratuite de protection hygiénique pour les femmes en situation de précarité. Annonce faite ce matin par les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Christelle Dubos. 1 million d'euros sera consacré à cette initiative. Une annonce qui intervient après la remise mardi d'un rapport parlementaire sur le tabou des règles. L'association Règles élémentaires qui milite pour cette mesure salue un bon début, mais elle appelle à aller encore plus loin pour lutter contre la précarité menstruelle qui concernerait 1,7 million de femmes en France. On écoute la présidente de cette association, Tara Euse-Sarmini.
La précarité menstruelle a plusieurs visages et c'est important d'avoir des solutions pour toutes les personnes qui sont concernées. Donc nous, on propose un arsenal de 4 mesures. Celle-ci était la première et on aimerait bien que les 3 autres voient le jour. La mise à disposition de bons d'achat pour des femmes en situation de précarité mais qui ont des solutions d'hébergement pérennes, donc afin qu'elles puissent choisir leur protection, jetable, pas jetable, selon les goûts et les besoins de chacune. Un alignement de toutes les mutuelles sur ce qu'a proposé la LMDE, qui consiste en un pass menstruation qui permet de prendre en charge une partie du coût de ces protections. Et enfin, la mise en place massive de distributeurs dans tous les lieux publics mais aussi privés type aéroport, restaurant, entreprise, afin vraiment de normaliser le sujet des règles et permettre à toutes les femmes qui s'est retrouvées ou se retrouvera en situation de galère un dimanche soir par exemple, qu'elles puissent trouver des produits d'hygiène intime aussi facilement qu'aujourd'hui on le peut avec des préservatifs par exemple.
Tara Eusé-Sarmini de l'association Règles élémentaires répondait à Laura Dulieu. La météo demain sera plus calme qu'aujourd'hui, mais le ciel restera nuageux et parfois pluvieux sur la moitié nord. 4 départements restent en vigilance orange. La Somme, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et l'Eure. Les températures minimales iront de 2 à 6 degrés en général, jusqu'à 11 près de l'Atlantique et la Méditerranée. Les maximales évolueront entre 9 et 20 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.